7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons des douanes en Afrique, dans des économies informelles où, c'est vrai, l'impôt est difficile à lever. Les douanes représentent entre 50 et 70% des rentrées budgétaires des États. Mais au quotidien, pour les usagers, eh bien, les douanes font partie des tracasseries administratives régulièrement dénoncées. Alors, comment fonctionnent réellement ces douanes? Quelles répercussions sur les consommateurs, sur le commerce? Le tout informatique peut-il limiter les dérives humaines aussi des tracasseries douanières? Et puis sinon, les citoyens usagers ont-ils eux aussi un rôle à jouer, une pression peut-être à exercer pour un meilleur fonctionnement des douanes? Nous allons en parler avec nos invités. Yann Alix, consultant international dans le domaine de la logistique portuaire, bonjour.
Bonjour.
De l'Amérique à l'Afrique, vous avez travaillé sur presque tous les continents, non, je crois?
Presque, oui.
Délégué général à la Fondation C'est Facile, fondation qui réfléchit à des solutions pour améliorer les transports de marchandises, et les douanes font partie de ces améliorations possibles. Et puis, nous sommes également en compagnie d'un douanier, ancien directeur des douanes françaises. Bonjour Lionel Pascal.
Bonjour.
Vous êtes en studio à Périgueux grâce aux moyens techniques de France Bleu Périgord. Vous avez travaillé dans plusieurs pays d'Afrique et pas seulement, en Amérique du Nord également. Vous publiez un livre sur la République centrafricaine, douane et corruption, cause de la déliquescence du pays, avec un point d'interrogation. Le forum de Bangui a démarré hier, vous le savez, sur la réconciliation. Je suis pas sûre que l'on y parlera de douane, mais bon. Nous attendons vos témoignages, les voisins. Appelez-nous dès maintenant pour nous parler de vos expériences personnelles avec les services douaniers de votre pays. Et quelles solutions aussi, selon vous, pour améliorer le fonctionnement des douanes? 33 1 84 22 71 71. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission. Appelez-nous dès maintenant. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Plus de 90 000 fans, on a passé la barre, et merci à vous les voisins. João Paulo, qui est à Luanda en Angola, nous dit lors d'un transport entre l'Angola et la RDC, le dédouanement ou les taxes reviennent à 50% du prix d'achat des marchandises. On pille les investisseurs, on fait souffrir les consommateurs. D'accord, pas d'accord? Le chiffre qui était avancé, 50% du prix d'achat des marchandises. Yann Alix?
Je pense qu'il faut quand même garder un petit peu à l'esprit que généralement quand on annonce des chiffres pareils, il faut avoir des détails un petit peu précis sur sur exactement ce que ce monsieur a dû payer et à qui il l'a payé d'ailleurs. Donc 50%, c'est un chiffre qui circule beaucoup dans les médias, au niveau des importateurs et des exportateurs. Il faut intégrer tous les coûts de transport qui sont exorbitants également en Afrique.
Oui, donc à chaque fois, là c'est pas la même chose.
Ouais. Exactement. Donc mais tout ça s'intègre dans un surcoût que le consommateur lambda doit payer pour avoir sa marchandise.
Je vous lis aussi le message d'Alassane. Oui, je vous en prie.
Oui, alors moi je voulais dire, je ne suis pas d'accord sur le thème surcoût, parce que d'abord, il faut savoir que le droit de douane, c'est à deux missions dans n'importe quel pays, notamment les pays d'Afrique, dont les ressources douanières sont extrêmement importantes pour faire fonctionner le budget. C'est d'une part, effectivement, une mission fiscale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour faire fonctionner l'État. L'État, il ne faut pas oublier, notamment en Afrique, c'est les routes, c'est l'école, c'est la santé. Et c'est des besoins absolument essentiels. Vous disiez qu'au forum de Bangui, auquel je souhaite plein sens pour que la paix revienne enfin dans ce pays que j'aime, c'est effectivement les douanes qui sont extrêmement importantes, parce qu'il n'y aura pas que l'argent que des bailleurs, il y aura aussi l'argent que la RCA est capable de percevoir. Et c'est extrêmement important. Donc le chiffre de 50% est tout à fait exact, il est même des fois plus fort dans certains pays. Mais c'est logique, parce que pourquoi on met des droits de douane? On met des droits de douane aussi pour des raisons économiques. C'est-à-dire c'est pour protéger le consommateur local, le producteur local. Un pays sous-développé n'a quasiment pas d'impôt fiscal à prélever sur le pays, tout vient en importation. Donc, peu à peu, ça permet comme ça aux producteurs locaux de construire, de développer une économie sur laquelle l'État prélèvera des impôts fiscaux, et peu à peu, on diminuera les droits de douane. Donc, c'est un signe de développement de payer des impôts sur place. En attendant, il faut le protéger. Donc, c'est tout à fait logique, et moi, je ne suis pas choqué du tout par le montant annoncé par cet auditeur. Bien au contraire.
Alors, ce n'est pas forcément ce que ressentent en tout cas les auditeurs. Alassane, qui est dans le nord du Togo, nous dit, au Togo, il y a des postes de douane à l'intérieur du pays qui ne contrôlent absolument pas les marchandises. au passage des camions. Les douaniers, en revanche, prennent des pots de vin au passage de chaque camion. Et tout cela, l'État le sait bien. Je vous lis aussi le message d'Ibrahima à Dakar. La douane au Sénégal, c'est du vol organisé, je le cite. La compagnie sucrière sénégalaise, avec la complicité de l'État, impose un monopole insolent et peine à satisfaire la demande. Les douaniers ne veulent pas que les Sénégalaises se ravitaillent en Gambie, où le kilo de sucre coûte moins cher. Bon, effectivement, on a un monopole depuis le début des années 70 et qui est contesté. Et plusieurs industriels affirment qu'effectivement, la contrebande de sucre est favorisée par ce monopole. Voilà pour le petit rappel, un commentaire là-dessus sur les Sénégalaises qui aimeraient bien avoir du sucre de Gambie moins cher.
Alors moi je sais pas s'ils veulent du sucre de Gambie, mais la corruption quotidienne, ce qu'on appelle la petite corruption en Afrique, elle est réelle. Il est vrai que sur le bord de la route, très souvent, on voit des douaniers en uniforme. D'ailleurs, tout le monde n'est pas sûr que ce soit des douaniers. Des fois, c'est aussi des gendarmes, c'est des policiers, c'est des militaires des forces de sécurité. Tout le monde prélève son petit baccis. Donc ça, on le sait. Mais la petite corruption, elle existe parce qu'il y a la grande corruption qui l'organise. S'il n'y avait pas des responsables politiques et des ministres et des gouvernants qui prélèvent beaucoup plus d'argent lorsqu'il y a des passations de marché, on n'aurait pas des petits douaniers ou des petits policiers qui prennent 2000 CFA de temps en temps. Donc moi, c'est ce que je veux dénoncer, notamment dans mon livre, c'est que la corruption est quelque chose qui est absolument grave pour la bonne marche financière des États, que les organisations internationales et les experts dont j'ai fait partie le savent très bien, mais que quand on rentre dans les moyens pour lutter contre cette corruption et remettre de l'ordre dans les finances publiques d'un État, on se heurte à effectivement des grosses sociétés, à des combines. Je rappelle que chaque année, c'est 1000 milliards de dollars qui s'en vont d'Afrique vers des pays, des paradis fiscaux. C'est quand même pas rien.
Alors justement, nous allons parler des mauvaises pratiques les plus courantes qui affectent le bon fonctionnement des douanes. Vous nous appelez, les voisins, les voisines, pour nous parler aussi de ce que vous vivez au quotidien dans vos relations avec les services douaniers de votre pays. 33 1 84 22 71. Il manque deux chiffres, je vais vous redonner le numéro de téléphone. Cette fois, très bien, 33 1 84 22 71 71. N'attendez pas la fin de l'émission, appelez-nous. Surtout dès maintenant, si vous vous sentez concerné par le sujet des douanes sur le continent africain. Alors, pourquoi sur le continent africain? Parce que, il faut peut-être expliquer, Yann Alix, que on est sur un sujet qui est très concret dans la vie des consommateurs et des usagers. Peut-être pas de tous, bien sûr, mais c'est probablement un sujet plus concret sur le continent africain que pour nous en Europe. On n'a pas de contact direct avec les douaniers.
Excusez-moi, c'est un petit peu ce que disait Lionel Pascal entre la petite et la grande corruption. Finalement, je dirais que le consommateur lambda africain, qu'il soit enclavé dans un port, constate de visu, expérimente chaque jour pratiquement l'effet plus ou moins insidieux de la petite corruption et a son idée toute préconçue sur la grande corruption de l'État face à justement au fait que les routes ne soient pas reconstruites avec la levée fiscale qui devrait émaner directement de l'activité douanière. Donc effectivement, quelque part, en Europe de l'Ouest ou du moins chez nous, on ne constate plus l'effet bénéfique et positif de la douane sur notre façon de vivre du quotidien.
Ou négatif.
Ou négatif. Aujourd'hui, la chose est la suivante, c'est qu'effectivement, il y a quand même une croissance économique très importante en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, notamment. Et donc, vous avez une classe entrepreneuriale jeune qui a besoin d'avoir des réformes douanières qui soient en soutien de leur effort d'importation et d'exportation. Ils ne veulent plus être victimes, finalement, de surcoûts et de pratiques qui n'ont plus lieu d'être, finalement.
Alors, justement, je voudrais quand même qu'on en parle de ces mauvaises pratiques avec vous, Lionel Pascal. Comment, à quoi est confronté le consommateur? Je ne sais pas si on prenait un exemple, un consommateur qui veut importer un véhicule d'occasion. Comment ça se passe?
Pour importer des véhicules comme n'importe quelle marchandise, vous déposez une déclaration en douane. La déclaration en douane, en général, c'est un transitaire qui l'a fait. Donc le transitaire, c'est un commerçant qui est spécialisé dans la matière douanière et qui va auprès des différentes étapes du bureau de douane pour faire valider sa déclaration, la faire enregistrer, la faire sortir la marchandise, la valider par l'inspecteur de visite et la libérer du port où elle est arrivée au départ pour se la mettre des fois en transit vers un pays enclavé. Donc vous voyez bien déjà à travers les étapes que j'ai indiquées qu'il y en a déjà quelques-unes. Chaque fois, c'est ce qu'on
assez
appelle
complexe,
un péage.
Hein, quand même.
Voilà. Alors, c'est complexe pour l'opérateur, effectivement, qui lui connaît rien à la douane, mais pour nous, c'est assez clair, les étapes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, il y a un péage. C'est-à-dire que, par exemple, il va falloir donner 2000 CFA, 5000 CFA à chacun des douaniers qui a cette responsabilité-là. Donc, effectivement, ça renchérit notamment le coût de la consommation. Et pourquoi on paye le douanier? C'est parce que, d'une part, il y a une réglementation extrêmement complexe, que surtout si c'est du papier en permanence. C'est une des raisons pour lesquelles l'informatisation est quelque chose d'important. Quand j'ai débuté en douane, il y a quand même pas si longtemps, il y avait un billet de 50 francs dans les déclarations en douane en France. Faut pas rêver, la douane, la corruption, la petite corruption, c'est pas un problème africain, c'est un problème mondial.
Il y a eu récemment un scandale à Roissy qui durait depuis des années d'ailleurs.
Hein, voilà, qui est extrêmement grave. Grave notamment parce qu'il y a des fonctionnaires qui piquaient l'argent dans les valises qui représentaient la contrepartie de la drogue.
Fonctionnaires français, hein.
Fonctionnaires français, des douaniers français. Et surtout, ça a duré depuis 20 ans sans qu'ils se fassent prendre. C'est l'office de Stup qui a réussi à lever cette affaire. Donc c'est gravissime en matière de contrôle interne. C'est ce que j'allais dire. Il y a deux choses qu'on a fait en France pour lutter contre cette petite corruption. C'est d'une part informatiser les bureaux. On n'a pas encore trouvé le moyen de mettre un billet de 5000 CFA dans les tuyaux d'un câble informatique. Ça veut dire qu'on casse la relation entre le client et le douanier, et comme ça on peut plus le payer directement. L'informatique sert à ça. La deuxième chose, c'est un contrôle interne, voire externe, très fort. Car le gros problème en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de contrôle interne. Dans les recommandations des organisations internationales, elles ne connaissaient pas ce que c'était que le contrôle interne. Elles ne l'ont pas prévu dans ces recommandations pendant plus de 30 ans. Et donc,
concrètement, là, pour qu'on comprenne bien en tant que consommateur?
Un contrôle interne, ça veut dire que vous avez des équipes spécialisées qui font un audit, comme dans une société, pour voir quel est l'état de la comptabilité, comment se comportent les gens, est-ce que la réglementation est respectée, etc. Et vous êtes totalement neutre par rapport aux gens que vous rencontrez. Vous faites pas de partie ni de la même ethnie, ni du même clan, ni de la même loge, ni rien du tout. Et là, vous avez un rapport exact qui dit tous les défauts et les avantages, non seulement du service, mais des gens qui sont en place. Et vous en tirez les conséquences. C'est ça qui est grave. Parce qu'il suffit pas, effectivement, d'avoir des informations, parce qu'on a des fonctionnaires corrompus. C'est que les fonctionnaires corrompus, faut les faire sauter. C'est-à-dire, faut les mettre en justice. Et pour ça, c'est une des conditions très importantes qui manquent en Afrique, c'est l'état de droit, c'est-à-dire une justice indépendante qui soit systématiquement saisie quand il y a un douanier corrompu, et pire, quand c'est un directeur général ou quand c'est un ministre. Quand vous avez, comme en RCA, au moment où la révocation d'un ministre des Finances, son directeur de cabinet va directement dans une entreprise prendre 200 millions de CFA pour pouvoir se payer d'une amende en cours, et bien entendu l'entreprise considère que pour elle le paiement de la transaction est terminé, personne ne dit rien. Les organisations internationales le savent, tout le beau monde le sait, et on trouve ça presque normal. Donc le ministre va se partager les 200 millions de CFA avec son directeur de cabinet. Oui. Alors tout ça, je peux vous donner des exemples de quasiment tous les pays d'Afrique. Mais ça est arrivé aussi en France ou ailleurs. Hein. Je répète, je ne veux surtout pas montrer du doigt un pays africain ou la douane africaine. Ce que je veux, c'est montrer un ensemble avec des organisations internationales qui ont tous les moyens de lutter contre ces cas de corruption, et qui malheureusement n'en font pas assez. Je donne un deuxième exemple. L'Union européenne a donné 100 ordinateurs à la douane centrafricaine. Un mois après le constat, il n'y a pas un ordinateur qui est arrivé dans les bureaux de la douane centrafricaine. On demande, bien entendu, à l'Union européenne ce qui s'est passé, et elle répond, moi j'ai un papier comme quoi le cabinet du ministre a bien signé la prise en charge des 100 ordinateurs. Oui, mais personne n'est allé voir où ils étaient, ils ont disparu, mais ils sont pas disparus pour tout le monde. Bon, faut pas me dire que pour l'Union européenne, elle ne sait pas comment remédier à ce genre de choses. C'est assez facile au niveau politique de faire le poids sur le ministre, à dire, écoutez, c'est intolérable. Si elle ne le fait pas, c'est de la complicité passive.
On va revenir sur le rôle des organisations internationales, des bailleurs de fonds, mais aussi de l'économie locale, hein, des entrepreneurs, des usagers. Vous nous appelez, on vous rappelle tout de suite le numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Et quelle solution, quelle pratique, qu'est-ce que vous vivez au quotidien avec les services douaniers de votre pays ou des pays limitrophes quand vous faites circuler des marchandises?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Nous sommes en ligne avec Marcel qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Marcel.
Bonjour Emmanuel.
Marcel, vous êtes entrepreneur, je crois, dans le domaine du bâtiment. Là, vous êtes à Abidjan, mais d'habitude, vous êtes basé au Bénin. Et vous voulez nous parler de vos problèmes d'importation de matériel?
Oui, tout à fait Emmanuel. En fait, j'ai importé d'Afrique du Sud. C'est une machine qu'on appelle Hydraform Block Making Machine. Donc, nous construisons avec des briques Hydraform. Et cette marchandise nous a coûté 62 000 dollars. Et la cargaison est en transit pour le Tchad. Parce que le marché est au Tchad, c'est au Tchad que nous devons construire. Et une fois arrivé à Cotonou, des officiers de la douane béninoise nous ont mis dans une tracasserie douanière telle que cette marchandise a disparu.
Mais
Mais une marchandise, je
attendez, excusez-moi, mais pourquoi ça passe par le Bénin? Là, j'ai ma carte de géographie sous les yeux de l'Afrique du Sud, au Tchad.
Donc, pays de l'Interland.
Là, c'est bien. Il s'agit bien d'un transport maritime. Hein, on est bien d'accord, et ça rentre par le port de Cotonou, d'accord.
Oui.
D'accord.
Le Tchad est un pays de l'Interland, qui est juste derrière le Niger.
D'accord. Donc votre machine est bloquée à la douane de Cotonou.
Ça n'a pas été bloqué, c'était en transit. Dans le but d'aller au Tchad. OK? On nous a mis en tracasserie douanière au point où, dans nos investigations, on s'est rendu compte que ces mêmes douaniers se mettent à faire du faux en écriture publique avec des complices au niveau du greffe, avec des complices un peu partout, pour sortir une ordonnance, et on vient nous dire non, votre cargaison a trop duré sur le port, et nous l'avons vendue aux enchères.
Ah oui.
Et tenez-vous bien, tenez-vous bien. Celui qui a acheté la marchandise de $62,000, c'est-à-dire 36 millions, l'a acheté à 36 000 francs, c'est-à-dire à peine à $60. Et on vient nous dire que cette marchandise qui est en transit, on fout les lois de la douane.
Donc cette machine a été revendue littéralement bradée, c'est ça?
Oui, elle a été bradée, mais c'est une pratique bien courante.
Après avoir été bloquée, d'accord. Marcel, ceci dit, là, vous nous parlez d'une mésaventure qui vous est arrivée. On comprend bien à quel point ça peut paralyser une petite entreprise dans le bâtiment. Néanmoins, autour de vous, vous avez l'impression que c'est relativement répandu? Parce qu'on peut pas faire d'un cas une généralité.
Madame, au moment où ça nous arrivait, il y avait déjà 1000 conteneurs qui ont subi ce cas-là. 1000, je dis bien 1000 conteneurs.
Bon, réaction de nos invités, Yann Alix.
Écoutez Marcel, je suis extrêmement désolé pour vous, et puis j'imagine bien que un tel litige impacte énormément vos activités économiques. C'est exactement, je crois, un exemple type de cette dérive organisée, hein, où la douane est un maillon central d'une organisation qui finalement peut permettre de bloquer une marchandise en utilisant des codes douaniers et des documents administratifs qui sont véritablement incompréhensibles pour un importateur qui a l'habitude d'utiliser les douanes.
Le port de Cotonou, il est informatisé ou pas?
Oui, il y a un système informatique communautaire au port de Cotonou. Je ne sais pas si Marcel, à quelle période ça s'est produit cette mésaventure?
Cette mésaventure s'est produite entre septembre 2012 février.
Bon, on peut imaginer que le port de Cotonou a progressé. D'accord, oui, ça a duré un certain temps néanmoins.
Emmanuel, on peut imaginer, mais c'est encore le lot quotidien des importateurs, notamment ceux qui vont vers les pays enclavés où il y a une complexité de la gestion d'un flux en transit dans un port maritime.
Mais si on prend l'exemple du port de Douala qui totalise quand même 92% des recettes douanières du pays, hein, donc là aussi vraiment un vrai hub où tout est informatisé depuis près de 5 ans, je crois que les douanes...
Je vais laisser Lionel peut-être corriger ce que je vais dire. Le port de Douala était le premier à mettre un guichet qui n'est pas informatique, un guichet unique où tout le monde se rassemble dans une place physique afin d'échanger les fameux
documents.
Justement,
quand tout est informatisé, du coup, il y a toujours des coups de tampon ou pas? Et est-ce que c'est à ce moment-là que se pose le problème? Je pose la question à Lionel Pascal.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que même si on recommande et qu'on achète du matériel informatique pour que ça dédouane très vite et en dehors du contact entre déclarants ou consommateurs et douaniers, en fait, ils gardent tous les formulaires papier parce que ça leur permet de continuer leur petit barrage et leur petite...
Il faut combien de tampons, là, pour une déclaration en douane, là, on prend l'exemple du port de Douala, très
justement,
rapidement.
Sur Douala, il y a une ONG qui a sorti un rapport la semaine dernière où il montre qu'il faut 20 tampons. Donc 20 tampons, c'est 20 fois...
Pour sortir une machine des douaniers du port de Douala.
Pour sortir n'importe quoi du port de Douala avec une déclaration. Bon, sans compter que quand vous êtes sorti du port, vous n'avez fait qu'une partie de la sauge. Après, si vous allez à Bangui, vous avez en gros à peu près 25 barrages physiques où il faudra redonner entre 2000 et 5000 CFA.
20 tampons alors que tout a été informatisé depuis plusieurs années.
Alors que tout est informatisé depuis plusieurs années et que la Banque mondiale a mis en place, paraît-il, des critères de performance transformant individualisés qui permettent de connaître l'action de chacun pour voir si les gens, les inspecteurs des douanes sur place, gardent trop longtemps les déclarations pour pouvoir discuter, etc.
Vous restez avec nous, Yann Alix, hein, Lionel Pascal. Les douanes en Afrique, quelles dérives, quelles solutions? Surtout, appelez-nous si vous vous sentez concerné par le sujet. La nouvelle génération d'entrepreneurs aussi sur le continent qui nous écoute, va-t-elle faire bouger les pratiques de ce qu'on pourrait appeler les pratiques de papa? Les voisins, les voisines, je rappelle le numéro 331 84 22 71 71. On se retrouve juste après le flash, bien sûr, sur RFI, 7 milliards de voisins. Surtout, restez avec nous. On parle des douanes en Afrique aujourd'hui.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, les douanes en Afrique, quelles dérives, quelles solutions? On en parle avec nos invités, Yann Alix, consultant international, délégué général de la fondation C'est Facile, qui travaille sur l'amélioration des transports de marchandises. Pour en savoir plus d'ailleurs sur les douanes, il y a un livre à télécharger gratuitement, alors profitez-en sur le site de la fondation C'est Facile, les corridors de transport. Lionel Pascal, vous êtes ancien directeur des douanes françaises, vous publiez un livre sur la République centrafricaine, douanes et corruption. Et puis, on le disait en première partie d'émission avec vous, Lionel Pascal et Yann Alix, les dysfonctionnements des services douaniers touchent bien sûr tous les continents, mais c'est vrai qu'en Afrique, les consommateurs sont plus nombreux à être directement confrontés au fonctionnement des douanes, d'abord parce qu'il y a des barrages aussi à l'intérieur même des territoires, et puis les produits de technologie sont massivement importés, on prenait l'exemple des véhicules, des machines dans le bâtiment avec cet auditeur qui nous appelait, et puis les rentrées douanières aussi, c'est ce qui rapporte le plus aux États dans des économies informelles où, rappelons-le, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés sont difficiles à lever. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, je vous lis quelques commentaires, celui de Freedom. C'est un pseudo, j'imagine. Il est à Niamey. Le problème de la douane en Afrique, nous dit-il, c'est le manque de sensibilisation. La douane refuse d'expliquer son rôle essentiel. Du coup, le commerçant se soumet à des règles dont il ne connaît pas l'origine. Issa Ouagadougou il nous propose une blague, Issa Ouagadougou. Je vais vous la lire. Dans un pays africain, bien sûr, un douanier est convoqué par son supérieur. Je lis le témoignage d'Issa, plutôt la blague d'Issa. On lui annonce qu'il bénéficie d'un congé d'une semaine et là, le douanier se met à pleurer à chaudes larmes. Pourquoi? Parce que pendant 7 jours qu'il passera à se reposer, il perdra beaucoup d'argent de pot de vin au profit de ses collègues, vu que la douane est un moulin à sous. Voilà, fermez les guillemets. On le voit bien, les douaniers font partie des professions les plus enviées, mais aussi les plus haïes du continent. Vous êtes d'accord avec cette image qui est donnée par les auditeurs, Lionel Pascal, Yann Alix.
Hélas, oui, comme j'ai dit, la petite corruption, c'est celle qui est la plus visible, que tout le monde dénonce à juste titre. Mais avant de continuer, je voudrais revenir sur deux points que vous avez abordés tout à l'heure, mais on n'est pas allé à fond. D'une part, à Douala, avec le guichet unique qui a été mis en place, c'est l'exemple même d'une usine à gaz montée avec l'accord des organisations internationales. Il y a un système douanier qui est un peu compliqué, qui s'appelle le transit, qui permet en suspension des droits et taxes de circuler d'un point à un autre, c'est-à-dire par exemple d'un port jusqu'à la capitale d'un pays enclavé. Douala, Bangui, par exemple. Vous cautionnez le montant des droits et taxes auprès d'une banque ou d'un organisme spécialisé. La marchandise va jusqu'à destination et lorsqu'elle est dédouanée à destination, on lève la caution.
C'est ça. Sauf et c'est la banque qui paye, donc.
C'est le destinateur final qui paye. D'accord. Mais si il ne s'est pas fait, on pique la caution à la banque qui a cautionné. Sauf qu'en Afrique, ça n'est jamais fait. Jamais une caution n'est prise. Donc, ça veut dire quoi? Que celui qui est assez malin pour ne jamais dédouaner à la fin de son transit, il aurait tort de se priver, parce que de toute façon, on ne lève pas les cautions. Et donc, c'est un foutoir fini. À tel point que l'exemple...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction, finalement.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sanction, c'est exact. Et par exemple, les Camerounais ont mis sous informatique l'enregistrement des transits à Douala. Par contre, à la sortie de leur territoire, c'est toujours à la main. Vous comprenez bien pourquoi il y a l'intérêt. C'est que ça permet de discuter avec chacun. Et comme ça, les Camerounais, qui sont quand même de bons fraudeurs et de bons contrebandiers, arrivent à discuter avec les douaniers pour faire retourner la marchandise dans le territoire camerounais, le Cameroun représentant 50% de la zone CEMAC.
Bon, les auditeurs apprécieront, vous nous appelez, hein, bien sûr, au 331 84 22 71 71.
J'ai pas fini, excusez-moi.
Je vous en prie, Lionel Pascal.
les Centrafricains n'ont rien trouvé de mieux de créer leur propre système de transit en doublon de celui des Camerounais. C'est-à-dire que pour le consommateur centrafricain, qui est déjà enclavé et un pays pauvre, il paye deux fois. Une fois le transit camerounais, une fois le transit centrafricain. Donc c'est vraiment... Et toutes les organisations, enfin les experts, et notamment quand j'y étais, je l'ai dénoncé plusieurs fois, ça a continué. Mais pourquoi? Parce que c'était une pompe à finances montée par le ministre et le président Bozizé. Donc tout le monde le savait, on a quand même mis beaucoup de mal à faire bloquer la société avec laquelle le gouvernement centrafricain a monté cette usine à gaz, mais ça a continué pendant un bon moment. Et encore aujourd'hui, ça fonctionne sous prétexte que ça s'appelle guichet unique.
Une photocopieuse, par exemple, qu'on paye 100 euros en Europe, elle arrive à combien à Bangui? Bon, évidemment, on prend un cas extrême d'un pays très enclavé, avec peu d'État, etc. Ça arrive à combien? Ça fait fois combien?
Ça fera 1000 euros en gros, mais si vous comparez avec la Suisse, ça fait, oui, c'est par 10. Parce que
si on a payé tous les droits de douane.
Alors, les droits de douane,
si
tout à l'heure.
C'est pas arrivé en contrebande.
Yann, effectivement, connaissait un peu les droits, mais moins bien que moi, parce que je suis douanier. Vous avez, quand vous rentrez, vous devez payer des droits de douane, 20%, une TVA, 19%, des droits d'accise, 10%, une taxe anti-pollution, deux taxes d'intégration CEMAC, une taxe pour la forêt, une taxe pour l'OADA, une taxe informatique, une taxe pour les scanners. Et j'en ai oublié d'autres, il y a pour le pétrole, ceci et cela. Donc, vous rendez compte, effectivement, ça fait beaucoup d'argent. Donc, que font les gens? Beaucoup essayent de passer ce qu'on appelle en contrebande. C'est pratiquement un réflexe naturel quand on est pauvre et que ça coûte énormément cher. Et donc, 70% de l'économie centrafricaine, c'est informel. Donc, vous allez trouver là, effectivement, la même photocopieuse à 350 euros. Et ceux qui, les petits commerçants, les petits artisans, etc., ben, comme ils ont besoin à tout prix d'une photocopieuse, ils vont prendre celle au noir. Et par contre, les entreprises formelles, les grandes sociétés, qui elles payent leurs droits et taxes, ils sont obligés d'apporter à 1000 euros. Voilà, et à partir de là, il y a vraiment deux vies, mais rien n'est fait pour lutter contre le secteur informel. Les agents des douanes dont vous parlez tout à l'heure, l'un de vos auditeurs, qui dit, mais les douaniers regardent passer les camions. Mais c'est vrai, parce qu'on leur interdit de fouiller un camion. Tout ce qu'on leur demande, c'est de noter sur un papier qu'ils ont vu passer un camion avec tel numéro. Et on leur demande rien d'autre. En Europe, il y a longtemps que les douaniers font plus ça. C'est-à-dire qu'on avait le droit de fouiller les camions.
On va revenir justement sur la formation nécessaire et le rôle des douaniers, mais je voudrais quand même, on a des auditeurs qui patientent, là, qui veulent intervenir, ou vous questionner, parce que vous connaissez bien les dossiers tous les deux, Yann Alix et Lionel Pascal. Nous prenons au standard au 33 1 84 22 71 71 un voisin qui nous appelle de Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Oussemi.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute, vous avez la parole.
Bonjour à vos deux invités. Je vous pose une question assez précise. Je demande à M. Lionel Pascal et M. Yann Alix, comment aider les pays d'Afrique à passer du dédouanement classique à un dédouanement numérisé intégral, qui est en fait une volonté actuelle au niveau de l'OMD.
De l'Organisation mondiale du commerce et des douanes. Oui, du commerce. C'est l'équivalent, c'est l'OMC des douanes, on va dire. Alors, comment on passe donc des coups de tampon au tout numérique? Parce que si j'ai bien compris, on peut avoir aujourd'hui des transits complètement sécurisés avec des containers qui sont scannés, qui sont pesés, qui sont scellés électroniques, avec des camions qui sont suivis par satellite, avec et qui ne peuvent pas être, si vous voulez, pillés, etc., avec des macarons de transit sécurisés et un camion qui ne peut plus être bloqué. Ça existe, ça, aujourd'hui, sur le continent africain?
Non.
Non?
Non, tout ça, c'est faux. Il ne faut pas oublier que toute la technologie est au service de l'homme. C'est l'homme qui décide. Donc, tant que vous laissez les douaniers pouvoir régler eux-mêmes tout ce qui est technique, ça ne marchera pas.
Yann Alix, vous partagez ce point de vue ou pas? Alors, là-dessus, là, ça n'existe pas, les containers scellés, complètement numérisés, scannés, etc.?
Alors, il ne faut surtout pas comparer avec ce qu'on peut vivre ici. Et effectivement, la chose est beaucoup plus complexe. Mais par rapport à ce que dit Lionel, je trouve qu'il y a aussi une dimension, la technologie résout pas tout. Ça dépendra de comment les douaniers vont être formés. Les Québécois utilisent un mot formidable qui s'appelle conscientiser. La manière dont ils vont être conscientisés à l'utilisation de la technologie pour pouvoir finalement, et là aussi il y a une dimension politique évidente, et c'est ce que disait Lionel Pascal, si le politique ne rémunère pas mieux de façon formelle ses douaniers, évidemment qu'ils vont ils vont continuer d'avoir un système parallèle à une
ça
mise en...
Ça gagne combien un douanier aujourd'hui?
Alors excusez-moi, c'est pas un problème de rémunération des douaniers. En RCA, le salaire de base est est de 60 euros par mois. Le salaire minimum du douanier, un préposé, c'est de 115 euros par mois. Un directeur gagne 550 euros par mois. Plus, il a des primes chaque fois qu'il fait des affaires. Il gagne très bien sa vie, le douanier.
Oui, mais on ne va pas prendre non plus toujours l'exemple de la RCA, parce que c'est quand même un cas à part. Mais il y a une analyse sur le salaire des douaniers par rapport à leur revenu réel.
Je comprends complètement la position de Lionel. Hein, et comme il le disait tout à l'heure, je veux dire, entre la petite et la grande corruption, les gars peuvent multiplier par, je ne vais pas dire un chiffre parce que ça va être très très vague, mais par 2, par 3, par 5, leur rémunération.
En fonction de la place dans la hiérarchie douanière.
Déjà d'un, et puis finalement en fonction aussi des gros coûts qu'ils peuvent faire, notamment le coût de cette machine qui est bloquée pour un transit vers le Tchad.
C'est une machine à 62 000 dollars.
Finalement, il y a toute une chaîne de responsabilités qui va être organisée en parallèle d'une solution informatique dématérialisée. Donc la technologie est une solution, encore faut-il savoir l'utiliser, savoir former les gens.
Mais quand tout devient traçable, quand on sait qui est intervenu, à quelle heure, avec quel code informatique, c'est quand même plus compliqué,
alors,
non?
Parce que
je suis pas bonne en technique, mais c'est à peu près ça le principe, non? De la numérisation, de la.
Mais comme le disait Lionel, la réforme, je dirais, des codes douaniers de la plupart des pays d'Afrique, et Lionel, tu me corrigeras si je me trompe, n'est pas faite. Ça reste très compliqué, même si on dématérialise, même si on simplifie, même si on rend plus fluide, il y a toujours la possibilité de se cacher derrière des textes qui sont extrêmement complexes et qui sont quasiment impossibles à décrypter, même pour des importateurs et des exportateurs aguerris. Même les plus grandes agences de transit et de commissions de transport, familiers de l'usage de ces pratiques, peuvent se perdre à partir du moment où les douaniers et leurs collaborateurs, on va dire ça comme ça, ont décidé que finalement il allait y avoir un blocage parce qu'il devait y avoir rémunération informelle en conséquence. Lionel, je ne sais pas si tu partages mon point de vue.
Si, on est d'accord, c'est ce que je veux dire. Moi, Dieu sait si je suis un partisan d'informatisation, mais tant que les hommes ne seront pas conscientisés, comme tu le dis, à la façon canadienne, c'est tout à fait exact. Je suis allé à Cotonou, il y a 2 ans, faire un audit à la demande de la présidence de la République, parce qu'il y avait effectivement des choses qui n'allaient pas sur le port de Cotonou. Et c'est exact que les douaniers, c'est un port qui est informatisé, qui a tout pour fonctionner. Mais les douaniers ont fait exprès de continuer de faire les formulaires papier, avec l'accord de toute leur hiérarchie, et quand on leur montre du doigt que ce qu'ils ont fait, c'est exprès pour faire sauter le système informatique qui leur convient pas pour des raisons évidentes, à ce moment-là, ils rentrent en conflit avec le pouvoir politique qui, lui, a passé des accords avec d'autres entreprises pour que le port de Cotonou devienne un hub important avec le Nigeria.
Il faut préciser que le pouvoir de nuisance des douaniers est absolument colossal. Le pouvoir de blocage est colossal. C'est comme les routiers en France.
Je peux me permettre, par rapport à la remarque de Lionel,
nos auditeurs souhaitent
sachant qu'il y a 2 ans, la situation s'est débloquée parce que le président de la République en personne a tapé du poing sur la table en disant que c'était lui le chef, finalement, de cette dématérialisation au port de Cotonou, qu'il en était l'instigateur et que finalement ça a été un argument de campagne pour dire que le port de Cotonou devenait certainement le port le plus vertueux de la sous-zone quand même.
33-1-84-22-71-71, nous accueillons Moussa qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Moussa.
Bonjour.
Vous êtes négociant en transport de marchandises, je ne sais pas si la ligne est bonne, allez-y.
Effectivement, et je salue au passage vos deux invités. Bon, ben, ce que je voudrais dire, c'est que je suis sidéré pour mon ami de Cotonou qui avait intervenu tout à l'heure. Et quand il s'agit des cas comme ça, je pense qu'il faut bien se renseigner sur les éléments juridiques. Parce que...
Alors, je suis désolée, la ligne se dégrade, mais vous soulevez un point très intéressant, Moussa. Effectivement, pour la mésaventure qui est arrivée à Marcel, qui nous a appelé en première partie d'émission, qui a perdu sa machine nécessaire à des fabrications de briques, il est entrepreneur en bâtiment, il a paumé sa machine de 62 000 dollars, qui a été revendue aux enchères, une bouchée de pain, suite à un blocage qui a duré des mois et des mois dans le port de Cotonou. Mais quelles sont les possibilités pour les usagers, pour les commerçants, pour les entrepreneurs, de porter plainte? À qui peuvent-ils s'adresser, Yann-Alix?
Il y avait une initiative, par exemple, ça va être très concret, c'est les chargeurs du Burkina Faso qui ont créé un observatoire des pratiques anormales. Donc l'idée, elle est très simple. Hein. Quand vous êtes victime d'une spoliation ou d'un événement qui est absolument anormal au moment de votre dédouanement ou au moment de votre transit, vous avez la possibilité de déposer, alors ce n'est pas une plainte légale, mais vous avez un organe structuré et structurant de dénonciation des pratiques anormales. Et finalement, vous avez un peu une fédération, entre guillemets, autour de cet observatoire, afin justement de rentrer dans des processus légaux. Le problème, et on revient toujours à la même
chose. Mais c'est pas une démarche juridique, on n'est pas dans un processus judiciaire.
Et à partir du moment où vous rentrez dans ces processus-là, vous rentrez dans un tunnel où vous ne savez jamais, où vous allez en sortir finalement, et ça va vous coûter parfois beaucoup plus cher que la valeur intrinsèque de votre marchandise. Ça peut vous prendre un temps infini. Ouais. Et finalement, la plupart des gens ne rentrent pas dans ces processus.
Pour vous, comptabiliser les pratiques anormales, quand on est usager, qu'on est furieux de sa mésaventure, ça vaut le coup quand même.
Je crois que c'est un début.
Pour l'incitation à cela.
Alors, on va pas parler d'omerta, mais l'idée est véritablement de dénoncer les pratiques quand elles existent.
Il y a des numéros de téléphone dans certains pays mis en place pour recenser les barrages internes aussi.
Tout à fait. Vous avez une initiative qui est soutenue par un organisme américain qui finalement recense l'ensemble de tous ces barrages.
L'USAID.
Toutes ces pratiques. Et finalement, ça commence à porter ses fruits parce que des rapports sont publiés. On montre que ça coûte des centaines de milliers de CFA supplémentaires contre zéro service, voire même plus de contraintes que de services. Et donc, il y a une prise de conscience politique, je dirais.
Est-ce qu'ensuite, on observe un effet direct sur un corridor de transit de marchandises ou pas? Est-ce que les usagers peuvent dire « Ah bah oui, tiens, là, il y a quand même tel barrage qui a sauté, celui-là qui a sauté, etc. »
Je vous dirais que finalement, c'est les statistiques de la dernière décennie qui parlent. Le nouveau corridor, quand je parle de nouveau, c'est qu'il n'existait pas avant la crise politique ivoirienne. Entre le principal port du Ghana, qui s'appelle Tema, jusqu'au Burkina Faso, c'était un corridor qui était culturellement pas utilisé, qui est devenu intéressant parce que le gouvernement ghanéen a fait des coups de force un petit peu pour, entre guillemets, épurer un peu tout doucement, hein, progressivement, du départ vers la frontière burkinabèse, à essayer d'éradiquer un petit peu ces pratiques anormales afin de rendre plus compétitif le corridor. Et les importateurs et les exportateurs ne s'y trompent pas si la solution devient plus fiable, plus efficace et surtout plus rapide, parce que la problématique du temps est essentielle. Quand vous avez des denrées qui sont parfois périssables, si vous êtes bloqué des heures et des heures alors que vous payez des milliers de CFA à chaque fois pour passer un contrôle, c'est même l'intégrité de votre marchandise qui peut être mise en péril.
Ouais, et l'intégrité des usagers, quand, par exemple, je pense aux transporteurs avec des camions en surcharge, quand on leur dit au moment du contrôle du poids du camion, ben non, vous êtes beaucoup trop chargé, et qui propose un bakchiche, est-ce que là, il n'y a pas aussi une responsabilité des usagers, des transporteurs?
Vous avez entièrement raison, mais là encore, et Lionel, je pense, abondera dans ce sens, c'est qu'il y a une forme de collusion. Les transporteurs routiers aussi sont organisés dans des systèmes très corporatistes, pour ne pas dire parfois mafieux, et donc, quelque part, il y a des espèces d'entente cordiale, on va dire, entre le corrupteur et le corrompu, et finalement, tout le monde réussit à retrouver quelques dizaines de milliers de CFA dans sa poche à la fin du transit.
Lionel Pascal?
Oui, pour revenir à votre question précédente.
Sur ces solutions qu'on vient d'évoquer.
Oui, moi, je voulais d'abord dire que la seule solution pour régler les problèmes de corruption, c'est l'état de droit. C'est-à-dire que ça suffit pas de dénoncer les mauvaises pratiques. Il y a, par exemple, en Europe, des comités de conciliation qui sont composés de douaniers, de transitaires et mais qui ont une base juridique. C'est-à-dire que leur avis est motivé et s'impose à la douane. Et si on n'est pas content de l'avis de ce comité de conciliation, on peut aller en justice et la justice tranchera. Donc ça n'existe pas en Afrique. Ils ont toujours refusé pour la plupart les gouvernements de mettre des comités de conciliation et que la justice se mêle des affaires douanières qui est donc juge et partie. Ça, c'est un des points des solutions. Et il y a un des points sur lequel on n'a pas encore abordé, mais qui est important et qui est un des sujets de mon livre, c'est la privatisation des missions douanières. Donc, c'est un remède qu'a proposé la Banque mondiale depuis fort longtemps. Et en fait, on s'aperçoit que, là encore, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est très mal organisé et c'est fait exprès.
Donc, une entreprise privée qui calcule les droits de douane. Et si on s'aperçoit qu'elle ne fait pas bien son travail, on peut la licencier puisque c'est un prestataire.
Alors non, c'est un prestataire, mais c'est un prestataire de service qui est chargé de calculer les droits de douane que vous avez à payer, sauf qu'ils n'ont pas le dernier mot. Derrière, il y aura la vraie douane.
C'est toujours le coup de tampon, c'est ça.
Qui recommence tout et qui la plupart des douaniers se font un plaisir de contester la valeur qui a été retenue par la société privée. C'est-à-dire que le contribuable, le consommateur dont vous parlez, l'usager, il paye deux fois. Ça coûte très cher de prendre une société privée. C'est 1% de la valeur qui rentre dans le pays.
Donc ça augmente encore le prix à la consommation, finalement.
Excusez-moi, je reprends l'exemple de la RCA, parce que je connais mes chiffres sur la RCA, je ne les connais pas pour tous les pays. Ça coûte 1 milliard d'euros à la RCA de payer l'opérateur actuellement qui est pour la privatisation. Et à côté de ça, la douane centrafricaine, elle avait 62 000 euros par an pour vivre, salaire compris. Ouais. Donc vous comprenez bien que quand on met autant d'argent pour qu'il y ait un service qui soit fait, qu'il soit bien, mais on doit interdire à la douane d'aller derrière la société privée dans ce cas-là. Ou alors, on ne prend pas la société privée et on investit massivement sur l'informatisation de la douane et sur la formation. À Bangui, la plupart des bureaux de douane, vous savez, Borloo, il a rien inventé quand on parle d'électrification. On peut me parler d'informatisation pendant des heures. Il n'y a pas d'électricité 12 heures par jour dans la plupart des pays d'Afrique. On n'a pas payé de générateur dans les bureaux pour rétablir le contact.
Lionel Pascal, je veux absolument qu'on donne la parole à un auditeur qui vient de nous appeler, Ali, qui est à Nouakchott, qui est tout à fait en désaccord avec ce que vous dites, Yann Alix et Lionel Pascal. Bonjour Ali, vous êtes en Mauritanie, vous êtes douanier.
Oui, oui. Bonjour. Je salue les experts qui sont avec vous. Moi, j'avais écrit en faux. Je suis vraiment aux antipodes de ce que vient de dire
Allez-y, on est là pour en discuter.
Oui. Donc, vraiment, je suis éclairé quand je les entendis. Bon, je comprends que monsieur a fait la RCA. Bon, la RCA, un pays en déliquescence, en déconfiture. Donc, voilà, déjà, il faut partir de là. C'est pas quelque chose qu'il faut généraliser. Mais, monsieur, je vous dis une chose. Les douanes africaines, en tout cas mauritaniennes que je connais le plus, sont des douanes performantes qui tiennent ce pays et ces pays sur leurs épaules depuis près de 60 ans.
C'est-à-dire qu'ils font bien rentrer les droits de douane dans les caisses
Absolument.
De l'État, c'est ce que vous voulez dire.
Les douanes ont commencé, en tout cas les douanes mauritaniennes ont commencé à jouer sur la transparence sur un tableau tout à fait clair depuis 1984 avec les Sidoniens, puis les Sidoniens 2.7, etc. Aujourd'hui, on est au World et je crois que ça peut se généraliser au Mali et toute l'Afrique de l'Ouest. Ceci dit, les entendre, j'ai l'impression qu'on est dans la République du Gondwana. Monsieur, nous sommes confrontés à des difficultés. Nous avons une problématique.
J'ai lu beaucoup de témoignages d'auditeurs qui étaient en désaccord avec ce que vous dites, Ali. Hein. Il ne s'agit pas seulement de nos invités.
Attendez, madame.
Je vous en prie,
non, il y a juste un fait, c'est que nous avons une problématique, celle de la logique sécuritaire, c'est celle que vous parlez de visite, de fouilles, de vérification, que vous appelez tracatrice, c'est vrai.
Mais nous avons... c'est le mot qui est employé,
que nous devons concilier avec une logique économique qui suppose la célérité, qui est une recommandation, effectivement, et un critère de performance. C'est pas partout que nous avons des scanners, ce n'est pas partout que nous avons des moyens de contrôle. Nous sommes confrontés à notre santé et des mises en jeu. Il va falloir traiter toutes ces marchandises. Déjà, mais dites-vous bien que quand il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Pourquoi ils ont accepté de corrompre? Parce que eux, ils ne sont plus savent.
Oui, bien sûr, mais c'est ce que disent nos invités depuis tout à l'heure. Hein. On est bien d'accord que nos invités défendent les droits de douane et les douaniers et ce corps-là. Il ne s'agit pas de...
Excusez-moi, Emmanuel Serrali, je connais bien la Mauritanie.
Lionel Pascal,
la Mauritanie. J'y suis allé 15 jours faire une expertise en 2009. Vous retrouverez mon nom sur le rapport. Donc, quand vous me dites qu'il n'y a pas de corruption en Mauritanie, il faut y aller doucement. Je connais quand même bien le pays. Sauf si depuis 2009, vous avez fait des progrès absolument énormes. Mais votre conclusion s'impose. Comme vous venez de le dire, qu'il y a des corrompus parce qu'il y a des corrupteurs. Donc, moi, je dénonce pas le douanier moyen qui touche de la petite un peu d'argent. Je dénonce effectivement les grandes sociétés, les ministres et les responsables. Après, vous me faites la leçon sur la sécurisation. On n'en a pas parlé du tout. C'est un autre sujet. On peut l'aborder. Mais
on n'a pas parlé de la circulation des marchandises illicites, notamment le trafic de faux des médicaments, etc. Il faudrait refaire une émission là-dessus, effectivement.
Je reviens de Dakar où j'ai travaillé pour l'ONUDC. Vous savez ce que c'est? On forme les cellules de ciblage dans tous les ports ouest-africains. Ils en sont à 40 ou 50 formations. Ils vont au Paraguay, ils vont à Londres, ils vont au Havre. La formation, ils en ont par-dessus la tête, les moyens, ils en ont. Mais quel est le vrai problème? C'est la corruption. Or, combien il y a de tonnes de cocaïne qui sont passées par Dakar l'an dernier, en 2014? 50 tonnes. Combien ont saisi les îles de ciblage? Moins de 200 kilos. Donc, la corruption, c'est pas qu'un problème de société. Partout, vous la trouvez. Et à très haut niveau, dont je n'accuse personne. Mais arrêtez de dire que ça n'existe pas et que la Mauritanie est un pays idéal.
Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de corruption, mais un peu d'équilibre, s'il vous plaît.
Oui, mais c'est pour ça que vous avez la parole, Ali, bien évidemment. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Il nous reste très peu de minutes. Et là, hélas, on ne négocie pas avec la pendule. Adama nous appelle d'Abidjan. Bonjour, Adama.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour à vos invités.
Bonjour. Voilà,
moi, je suis un ancien signataire en douane, c'est-à-dire impliqué dans toute la procédure douanière. Bon, je suis à la réponse. Ce que dit invités, bon, c'est pas tout à fait. Bon, il y a du vrai dedans, mais concernant la complexité des textes, bon, il faut dire qu'il y a le code des douanes et puis il y a les textes réglementaires. Quand on les maîtrise, on s'en sort. Moi, en aspect tarifaire, j'avais pas de problème avec la douane. Ou pour pouvoir avoir les rétentions des dossiers au niveau des origines, des provenances, des petites tracasseries, et puis, bon, nous sommes pressés, on fait son pour partir et puis on sort vite. Mais il faut dire qu'à Abidjan, on sortait la marchandise à 24 heures, le système BAE.
Abidjan qui est un port complètement informatisé hein, aujourd'hui, si je ne me trompe pas.
Effectivement, on sortait les marchandises en 24 heures. Ça vient matin, l'après-midi, tu peux avoir ta marchandise. Le système BAE, il n'y a même pas de contrôle de douane. Ils voient et puis tu mets le cas, tu sais, puis après, il y a un contrôle intérieur. C'est tout.
Alors, je voudrais qu'on laisse quand même la parole à nos invités avant de se quitter. Quelles sont les pistes d'action, les pistes de blocage, mais surtout les pistes d'action? Qu'est-ce qui est prometteur? Quels sont aussi les pays qui ont vraiment fait du chemin ces dernières années? Yann Alix.
Lionel Pascal parlait de l'état de droit. Je pense qu'il y a déjà une problématique, c'est que la circulation des marchandises à l'échelle sous-régionale déjà exige nécessairement une cohérence dans la réforme. Une cohérence et une simplification dans la manière dont on traite un document, dans la manière dont on traite une marchandise en transit. Je pense qu'aujourd'hui, comme vient de le dire Adama, quand on en maîtrise les codes, finalement on s'en sort pas trop mal, mais les codes restent complexes pour beaucoup, beaucoup d'usagers, malgré les grandes sociétés de transit et de commissions.
Est-ce qu'il y a des pays qui mènent à l'heure actuelle des expériences positives depuis quelques années?
Ce qui est intéressant, c'est que sous la pression de l'Organisation mondiale du commerce, les États africains font partie d'un grand groupe de pays émergents qui ont comme obligation, entre guillemets, ou tout du moins on les encourage très fortement, à utiliser la dématérialisation comme un élément de facilitation du commerce mondial.
Le tout informatique.
Et comme l'Afrique est un continent en très grande croissance à l'échelle globale, mais avec des cas de type Côte d'Ivoire presque à deux chiffres, aujourd'hui on a des ports qui ne peuvent plus faire l'économie de se moderniser dans leurs pratiques, même douanières. Donc des ports comme Abidjan, des ports comme Lomé reçoivent énormément d'investissements privés pour moderniser leurs ports, et donc si les douanes ne suivent pas, il y aura un effet bloquant dans la chaîne que les consommateurs et les importateurs et les exportateurs ne pourront plus assumer. Donc finalement, il y a un cercle vertueux qui s'engage avec la croissance économique, avec l'éducation des populations, l'émergence d'une classe moyenne. Tout ça sont des éléments macro qui retombent sur le micro.
Un nouveau type d'entrepreneur africain aussi.
Exactement.
Qui a envie que ça aille plus vite et mieux.
Qui ne veut pas être tributaire d'un schéma d'importation et d'exportation qui ne devrait plus exister aujourd'hui.
Lionel Pascal, il nous reste quelques secondes.
Oui, moi je crois beaucoup à la concurrence, donc je suis rien contre la privatisation, et je pense que l'économie, la macroéconomie montrera quel est le port africain qui sera le meilleur, parce que très rapidement, on ne pourra pas attendre comme à Douala 34 jours pour sortir un conteneur, ou 12 jours comme à Dakar aujourd'hui, etc. Donc il va falloir qu'il progresse, car tous les ports sont en concurrence, et une fois que les corridors de transport fonctionneront bien, effectivement ça ira très vite pour amener les marchandises dans les pays enclavés derrière. L'informatisation est bien évidemment un des moyens, le contrôle interne aussi, mais la référence suprême, c'est l'état de droit. Tant
merci,
qu'il n'y aura
ça sera
pas
le mot
ça,
de la
on
fin.
N'y arrivera pas.
Merci à vous deux. Yann Alix, donc pour la Fondation C'est Facile, pour en savoir plus sur les douanes, le livre à télécharger gratuitement, Les corridors de transport, collection Les Océanides, hein, c'est sur le site www.cfacile.com. Et Lionel Pascal, vous publiez La République centrafricaine, douane et corruption, cause de la délinquance du pays, publié chez L'Harmattan. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, la parole est aux pères qui élèvent seuls leurs enfants, que leur épouse soit décédée ou qu'elle ait quitté le domicile conjugal d'ailleurs. Les hommes sont peu nombreux, c'est vrai, à élever vraiment seuls leurs enfants. Quelles sont leurs difficultés? Comment y parviennent-ils? Comment grandissent ces enfants? Appelez-nous dès maintenant si vous avez envie de participer à l'émission 33 1 84 22 71 71.